La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, ce mois de novembre, souvent marqué par les brumes, nous invite à être dans notre poêle à la manière de Descartes pour entrer dans la philosophie avec une partie difficile dans le lexique et dans le concept. La semaine dernière, c'était la définition de la philosophie en tant que science et sagesse dans une tension entre la philosophie thomiste propre aux religieux et aux séminaires et la philosophie qui veut, sur la scène du monde, être autonome de la théologie. Tel était l'enjeu posé par Jacques Maritain. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le sens commun. Qu'est-ce que le sens commun ? Pour bien vous faire comprendre ce qu'est la philosophie réaliste, je vais partir d'un poète. Ce poète est cité dans un livre qui est une petite merveille que je recommande à chacun des auditeurs que vous êtes, Pierre-Marie Émonet, donc dominicain, une métaphysique pour les simples. Voilà, on le trouve, il est sans doute épuisé, chez les vieux bouquinistes ou chez Gibert à Toulouse. Page 15, il cite un auteur suisse, Ramu. J'écris ces lignes pendant que Pâques vient et le monde des êtres organisés autour de moi ressuscite. Il s'élève par à-coups d'un état où il était à un autre état où il n'était pas tout à fait encore et hors de la mort à la vie. Toute chose se hâte avec avidité vers être davantage dans la lumière du matin. Elles y sont encouragées par la lumière qui est au-dessus d'elles et qui leur dit « Venez où je suis ». Partout on chante, on ne chantait plus, et la mystérieuse pousse sort, rose, faible et forte, plus faible que tout, plus forte que tout, entre deux mottes dans le jardin. Magnifique constat de l'être. Quand on vous dit métaphysique, philosophie de l'être, vous aurez peut-être envie d'éteindre le bouton de la radio. Mais quand on vous dit non, les poètes et les philosophes ont la même quête, celle de l'être, dans deux modalités différentes. L'un va l'exprimer par des images, l'autre par des concepts, parce que le philosophe cherchera à connaître. Vous vous dites que c'est davantage accessible. Et si on vous dit ben, la poésie ne fait que traduire un sentiment que vous avez tous, peut-être un soir d'été quand vous êtes allé à la plage et que les baigneurs sont partis et qu'il y a peu de monde sur cette plage, que le soleil se couche, que vous êtes fatigué par la journée, vous sentez peut-être comme un grand silence devant cet océan, devant l'être des choses. Ou bien, quand vous êtes assis comme Jean-Paul Sartre sur un banc du jardin du Luxembourg et vous voyez une racine de marronnier sortir de la terre et que vous sentez que l'arbre est, que les choses sont, que la rose est sans pourquoi, comme disent les mystiques rhénans. Alors cette percée rayonnante de l'être, le père Pierre-Marie Émonet l'a décrit ainsi dans son chapitre 2. Les penseurs grecs avant Socrate ont fait naître la métaphysique. Lorsqu'ils se sont posé la question « qu'est-ce que l'être des choses ?» Ils ont répondu « le premier des actes qu'elles exercent ». Mais il faut ajouter tout aussitôt que ce qui les a le plus captivés dans cet être, c'est la naissance, la phase de son surgissement. Nous dirons « l'être en son passé ». À la phase inaugurale, ils ont donné à l'être des choses de la nature le nom de Physis. C'est sous cette appellation que sont groupés les fragments qui nous restent de leurs œuvres. Ici encore, si nous voulons rejoindre en vérité l'intuition de ces premiers penseurs, il faut retrouver la signification originelle du verbe « être », mais cette fois au passé. À la troisième personne, au passé, on dit « il fut ». Cette forme dérive du latin « fuit ». Le latin vient du grec « fuein ». Cette forme dérive du sanskrit « bou. Or en sanskrit, ce verbe désigne l'acte par lequel une chose se pousse dehors à la lumière. Ainsi, l'acte de la graine quand elle se donne ses organes, l'acte de l'œuf qui se développe en embryon, comme la semence de la fleur qui s'ouvre en déployant ses pétales. N'appelle-t-on pas fœtus de futon l'embryon à l'heure où il acquiert ses caractères typiques de son espèce? Plus encore que par l'acte de se tenir en soi, c'est par l'acte de se pousser en dehors de la matière qu'une chose mérite le nom d'être. C'est bien à partir de soi qu'elle va se tenir en soi-même. Alors l'être connaît une phase où il sort de lui-même, où il puise en lui-même la force de se donner les organes qui lui assureront de se maintenir plus tard. Les premiers philosophes grecs ont été fascinés par cette force de surgissement, d'émergence, par la percée rayonnante qu'opère la fleur, l'oiseau, le petit homme, quand ils viennent à la lumière. Ici, le poète rejoint le philosophe, et le philosophe vous rejoint, nous rejoint, chacun d'entre nous, même si dans nos univers urbanisés, bétonnés, encore plus technocisés, puisque nous avons des masques, des gels, etc. actuellement, nous pouvons perdre ce sens de l'être, au nom de la gestion, du fonctionnement, etc. Mais si nous perdons ce sens de l'être, nous risquons de perdre notre humanité. Maritain va se poser donc la question du sens commun, puisque ce sens commun est la base, finalement, de la connaissance. Voilà ce qu'il écrit donc, dans la nature de la philosophie, qui est le deuxième chapitre de son introduction générale à la philosophie. C'est la quatrième conclusion. Avant de connaître les choses d'une connaissance scientifique ou parfaite, par la réflexion et par les causes, nous les connaissons d'une manière imparfaite, ce qu'il appelle la connaissance vulgaire. Il faut remarquer que non seulement nous commençons par cette connaissance vulgaire, mais encore que nous continuons nécessairement de nous y tenir en la perfectionnant plus ou moins par nos études et nos lectures pour l'immense multitude de choses dont nous n'avons pas la science proprement dite. Mais s'il s'agit du domaine des causes secondes, il est impossible à un homme d'acquérir, avec la perfection requise chez le véritable savant, la science de tout, autrement dit, de se spécialiser dans toutes les sciences, ce qui répugne dans les termes mêmes. Trop heureux s'il arrive à posséder vraiment une seule science. Pour tout le reste, il lui faudra donc se contenter d'une connaissance qui, si enrichie et si perfectionnée qu'elle soit chez celui qu'on appelle un homme cultivé, c'est-à-dire instruit de la science des autres, reste toujours en deçà de la science proprement dite. Mais s'il s'agit du domaine des causes premières et non plus des causes secondes, alors il est possible à un homme de s'élever à la science de toutes choses, car c'est précisément le propre de la science qui s'appelle la philosophie, de connaître toutes choses par les premières causes. La connaissance vulgaire est pour la plus grande part formée de simples opinions et de croyances plus ou moins bien fondées, mais elle comporte un noyau solide de certitudes véritables, où le philosophe discerne en premier lieu des données de l'évidence sensible, en second lieu des principes intelligibles évidents, en troisième lieu des conséquences aussitôt tirées de ces mêmes principes. Ces certitudes qui jaillissent spontanément dans notre esprit, dès que nous usons de notre raison, sont ainsi l'œuvre de la nature en nous. On peut donc les appeler une dot de nature, et dire qu'elles relèvent de l'appréciation naturelle ou du consentement de l'instinct, du sens naturel de l'intelligence. Dérivant de la nature même de l'homme, elles doivent se trouver chez tous les hommes, autrement dit être communes à tous les hommes. C'est pourquoi on peut dire qu'elle relève de l'appréciation commune ou du consentement de l'instinct, du sens commun de l'humanité. Et pour bien insister sur ce sens commun, je vous propose d'écouter Jean-Sébastien Bach dans la première partita qui nous propose une suite de danse. Pourquoi la danse ? Parce qu'on est dans le folklore, on est dans cette tradition basique, commune, qui fait que l'homme, dans toutes les civilisations, a dansé. Transfiguration du sens commun par la musique de Jean-Sébastien Bach.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Nous réfléchissons sur le sens commun avec Jacques Maritain dans son chapitre 2 de son introduction générale à la philosophie. Maritain voit le sens commun comme le premier geste de connaissance, mais il va tout de suite en cerner finalement les limites, la grandeur, pour le distinguer de la science. Il écrit « Les certitudes du sens commun, conclusion d'un raisonnement implicite, ne sont pas moins bien fondées que les certitudes de la science. Mais celui qui les a ne sait pas lui-même ou sait mal le fondement qu'elles ont en lui. Elles sont donc imparfaites, non quant à leur valeur de vérité, mais quant au mode ou à l'état sous lequel elles sont dans l'esprit. » Quelles sont donc les relations de la philosophie avec le sens commun ? Premièrement, dit Maritain, la philosophie ne doit pas se fonder, ainsi que le prétendait l'école écossaise, sur l'autorité du sens commun, pris purement et simplement comme consentement commun ou témoignage universel des hommes, ou comme instinct qui s'impose en fait. Elle repose en effet sur l'évidence, non sur l'autorité. Maritain est un auteur très subtil et vraiment on peut admirer la précision de ses mots, de son lexique. Deuxième point, mais si l'on considère dans le sens commun l'intelligence immédiate des premiers principes évidents par eux-mêmes, alors on peut dire que celui-ci est la source dont dérive toute la philosophie. La philosophie en effet a pour principe les évidences premières qui donnent naturellement à notre esprit ses certitudes primordiales. Troisièmement, enfin, si l'on considère tout l'ensemble des vérités, principes et conclusions connues par le sens commun avec certitude, mais sous un mode imparfait, il faut dire que la philosophie est supérieure au sens commun comme l'état parfait d'une chose est supérieure à l'état imparfait ou rudimentaire de cette même chose. Si l'on considère dans le sens commun non pas les conclusions auxquelles il adhère, mais seulement les principes, le sens commun reste inférieur à la philosophie quant au mode de connaître. Mais quant à l'objet et la lumière de la connaissance, il est supérieur à la philosophie et à toutes les sciences. Car la philosophie et toutes les sciences dérivent, ainsi qu'on l'a dit plus haut, de l'évidence naturelle des premiers principes. La philosophie traite scientifiquement les trois catégories de vérité instinctivement attestées par le sens commun, à savoir premièrement les vérités de fait, exprimant les évidences sensibles, deuxièmement les premiers principes intelligibles évidents par soi, et troisièmement les conséquences aussitôt déduites. Pourtant, le sens commun a le droit et le devoir de résister à toute doctrine philosophique qui nierait quelqu'une des vérités dont il a la certitude naturelle, comme l'inférieur a le droit et le devoir de résister au supérieur qui agirait d'une manière évidemment insensée. Car dès l'instant que la vérité nous est manifestée par une voie ou une autre, c'est péché que de n'y pas adhérer. Le sens commun peut avoir ainsi à juger par accident, la philosophie. Et avant de passer à la plage musicale, nous regardons l'exemple que prend Maritain. On raconte que Diogène, devant qui Zénon d'Élée développait ses arguments contre la possibilité du mouvement, se contenta pour toute réponse de se lever et de marcher. De même, à Descartes, qui soutenait que le mouvement est relatif ou réciproque, en sorte qu'il est indifférent de dire que le mobile se meut vers le but ou le but vers le mobile, le philosophe anglais Henry More répondait que lorsqu'un homme court vers un but, s'essoufflant et se fatiguant, il sait bien qui, du mobile ou du but, est réellement en mouvement. À tout de suite. Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pour conclure sur le sens commun, qui est la base finalement de la philosophie de l'être, Maritain propose un petit schéma dans ses conclusions de l'introduction générale à la philosophie. Pour ceux qui ont les œuvres complètes, c'est page 137. C'est un schéma qui est un tableau peut-être un peu trop schématique, trop anguleux, mais qui permet pour une première initiation de mieux situer ce qu'on entend par philosophie réaliste. Je rappelle que l'introduction générale à la philosophie est écrite en 1920 et que c'est un cours pour des élèves qui vont passer le baccalauréat. Ce sont des fondements, après une revue, une chronologique, un passage finalement par différents philosophes, Maritain pose les problèmes de fond que peut se poser la philosophie. Donc pour mieux comprendre le sens commun, il écrit « Philosophie d'Aristote et de Saint Thomas ». Il définit ainsi « Les certitudes du sens commun sont valables et la science se manque à elle-même si elle les contredit. Mais la philosophie a pour fondement les évidences naturelles de l'intelligence et non pas l'autorité du sens commun. » Ce sont des thèses qui ont été reprises au Moyen-Âge pour savoir si l'opinion pouvait avoir autorité, si le sens commun pouvait avoir autorité. Là, on sent un héritage médiéval. Différence donc entre évidence et autorité. Dans évidence, vous avez voir, que vous allez retrouver dans intuition. On a déjà abordé cette problématique avec Bergson au mois de septembre. Et Maritain, pour bien faire comprendre où se situe la philosophie réaliste, oppose finalement un amont et un aval. En amont, il caractérise ce qu'il appelle l'école hollandaise, l'école écossaise. Non seulement les certitudes du sens commun sont valables, mais l'autorité du sens commun, qui s'impose comme un instinct aveugle, doit servir de fondement à la philosophie. Cette thèse de l'école écossaise est écartée. En aval, les écoles rationalistes, criticistes et modernistes. Non seulement l'autorité du sens commun est inapte à servir de fondement à la philosophie, mais encore, les certitudes du sens commun sont dénuées de toute valeur spéculative. On voit bien que la philosophie réaliste, pour Maritain, permet à tout un chacun d'être déjà un philosophe en herbe. Et cette intuition de l'être que le poète va pouvoir exprimer par des mots, elle est accessible à tout un chacun. Et davantage, elle est naturelle à tout un chacun. Vous êtes donc, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, des philosophes qui s'ignorent. Et Maritain conclut, on voit aussi par tout ce qui vient d'être dit quel rôle important doivent jouer les certitudes du sens commun dans l'initiation à la philosophie. Ceux qui commencent les études philosophiques et qui vont entrer en contact avec les problèmes les plus nouveaux et les systèmes parfois les plus déroutants doivent s'appuyer avec une confiance absolue sur les certitudes du sens commun qu'ils trouvent en eux déjà présentes et qui les aideront à passer à une connaissance supérieure et plus parfaite aux certitudes de la science elle-même. Conclusion. La philosophie n'est pas fondée sur l'autorité du sens commun pris comme consentement général ou comme instinct commun de l'humanité. Elle dérive toutefois du sens commun si l'on considère en lui l'intelligence des premiers principes immédiatement évidents. Elle est supérieure au sens commun comme l'état parfait ou scientifique d'une connaissance vraie et supérieure à l'état imparfait ou vulgaire de cette même connaissance. Toutefois, la philosophie peut être par accident jugée par le sens commun. Tout est résumé ici. Et vous voyez déjà tous les mots qui vont vous servir dans les prochaines semaines. L'état parfait ou scientifique est opposé à l'état vulgaire. Différence d'état et non de nature. Mais état vulgaire comme scientifique ont accès à la vérité. Et cette intuition de la vérité, elle est inaliénable. On ne peut pas l'enlever à tout un chacun, à l'homme, à l'auditeur que vous êtes. Du coup, nous pouvons revenir au petit livre qui a ouvert cette émission, celui de Pierre-Marie Aymonet, dominicain, une métaphysique pour les simples, où il fait une comparaison finalement entre Aristote et Claude Bernard. La comparaison est très parlante, voici. Aristote fut amené par ses expérimentations nombreuses et minutieuses à parler de l'eidos, traduisons de l'idée, qui préside à la genèse des êtres vivants. Voici la formule dans laquelle il propose son intuition. Selon qu'on fabrique une chose, ainsi se produit-elle par nature, et selon que la nature produit une chose, ainsi la fabrique-t-on. Aristote parlera ainsi de nature ingénieuse, de nature organisatrice et créatrice. Comment après cela, écrit le père Aymonet, ne pas professer qu'une raison pénètre l'énergie que déploie la chose en sa genèse? C'est déjà le terme de logos qui veut dire raison, qu'avant Aristote, au VIe siècle, Héraclite d'Éphèse employait. À ses yeux d'ailleurs, la philosophie consiste dans cette seule chose, connaître la raison, c'est-à-dire le logos, qui pénètre toutes les choses et partout. Il parlait ainsi, tant le frappaient les mesures suivies avec régularité par les vivants en leur processus ontogénétique. Et le père Aymonet poursuit en disant « S'est-on assez rendu compte combien ces premiers penseurs de la nature sont proches du biologiste Claude Bernard ? Embryologiste célèbre, rompu aux méthodes de l'expérimentation, il a confié ne pouvoir dans ses explications faire l'économie de ce qu'il a appelé l'idée directrice des choses. » Écoutons-le. Dans un germe vivant, il y a une idée créatrice qui se développe et se manifeste par l'organisation. Pendant toute sa durée, le vivant reste sous l'influence de cette même force vitale créatrice et la mort arrive quand elle ne peut plus se réaliser. Ici, comme partout, tout dérive de l'idée qui, elle seule, crée et dirige. Idée, eidos d'Aristote, principe vivant de Claude Bernard, nous retrouvons ici la problématique de Bergson avec cette intuition, cette vie créatrice. Du coup, on peut voir que le sens commun qui va percevoir cette idée dans les choses, qui va percevoir cette idée dans la nature, est déjà à la fois philosophe et à la fois poète. Pour conclure aujourd'hui sur cette présentation de Maritain, je terminerai par une très courte citation de Rainer Maria Rilke. « Arbre qui peut-être pense en dedans ». Magnifique, parce que ce pouvoir créateur, cette énergie vitale que l'on retrouve et qui est peut-être aussi cette saisie de l'être, permet au poète de dire que ça va se muer en pensée et en pensée intérieure. Dans la prochaine émission, nous verrons les liens entre théologie et philosophie autour de cette notion de science et de sagesse. Bonne semaine !